Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute de ce numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. Les concerts, les récitals, les représentations d'opéra vont reprendre la semaine prochaine à Toulouse. Et inutile de vous dire que nous attendons tout ça avec impatience. Il faut toutefois noter que cette réouverture des salles au public va se faire avec des jauges réduites. Un gros tiers de leur capacité d'accueil étant utilisé dans l'immédiat pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Dès ce 23 mai jusqu'au 3 juin, il va y avoir par exemple 6 représentations en version concert de La Force du Destin, l'opéra de Giuseppe Verdi au Théâtre du Capitole. Cela étant dit, en attendant ce retour du public dans les salles, nous allons vous proposer aujourd'hui la rediffusion d'une des émissions du cycle que nous avions consacrée à Jean-Sébastien Bach à l'automne dernier en compagnie de Michel Brun, le fondateur et directeur artistique de l'ensemble baroque de Toulouse et du festival Passe ton Bac d'abord, celui pour qui l'œuvre de Bach n'a plus de secret ou si peu. Celle-ci était dédiée au concerto, un pan important de la production de Jean-Sébastien Bach. Avec Michel, nous avions essayé de vous en présenter la quintessence. C'est parti pour un retour arrière à l'époque des derniers temps du baroque.
Mélomanie. Retour arrière.
Alors pour commencer Michel, même si ça peut paraître évident pour certains de nos auditeurs, je vais vous demander de rappeler ce qu'est la forme, le genre concerto, quelles en sont la structure et les grands principes, sachant que comme le nom l'indique, c'est en Italie qu'est né le concerto au début du XVIIe siècle et donc de la période baroque.
Oui, effectivement, et le concerto d'ailleurs connaîtra une fortune extraordinaire. Ce sera une des formes nées à cette période-là qui connaîtra un des développements les plus importants. Il n'y a qu'à penser évidemment aux grands concertos romantiques et même post-romantiques comme ceux de Rachmaninov et de Prokofiev au XXe siècle pour voir la fortune que cette forme musicale a connue à partir du baroque et après. Alors, presque tout est dit dans le mot puisque nous avons une racine commune avec l'italien, le latin, concerto. Concerter, concertare, hein. Alors un mélange de se concerter, c'est-à-dire dialoguer l'un avec l'autre, mais il y a aussi, je crois bien dans le mot latin, une petite connotation de rivalité.
Oui, rivalité, hein. De querelle,
voilà, de querelle,
lutte éventuellement.
Donc de lutte éventuellement, et je crois qu'on a tout ça dans le concerto. Alors qu'est-ce que c'est que le concerto? C'est donc un dialogue qui s'établit entre un soliste ou on en reparlera, un groupe de solistes et un orchestre, c'est-à-dire là un plus grand groupe, parfois, et dans les concertos romantiques, d'énormes groupes comme pour une symphonie, de musiciens. Mais ce dialogue ne s'établit pas toujours, on va dire, de façon parfaitement sereine, et effectivement, il peut y avoir une sorte de lutte pour définir lequel triomphe de l'autre. Voilà. Et il y a même un compositeur du XXe siècle qui a écrit une sorte de pochade qui s'appelle Le concerto pour achever tous les autres, où il se moque de cette dérive du concerto romantique avec cette espèce de lutte. Alors il y a une fin interminable, chacun veut terminer, donc l'orchestre en rajoute une couche, puis le pianiste, puis l'orchestre, etc. Voilà. Pour se moquer de ce qu'est devenu, au bout du compte, cette querelle, à savoir qui était le plus brillant de l'orchestre ou du soliste.
Alors puisqu'on en parle, on va parler tout à l'heure des compositeurs italiens de cette époque qui ont créé en quelque sorte la forme du concerto. Mais Bach, lui, qu'est-ce qu'il va apporter à cette forme musicale? Est-ce qu'il lui apporte une nouvelle dimension?
Ah ben, comme dans tout ce qu'il a fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est que, évidemment, quand on pense à Bach, peut-être la première chose à laquelle on pense, encore que chacun, je crois, a sa vision de Jean-Sébastien Bach, mais c'est la musique religieuse et la forme d'aboutissement absolu dans laquelle il est arrivé, disons, avec ses compositions dans la musique religieuse. Et là aussi, dans le domaine de la musique instrumentale, il a essayé de travailler dans tous les genres, voilà, dans le concerto. Et on va voir ça au fil de cette émission, comme s'il avait voulu, au fond, embrasser tout ce que le mot concerto peut comprendre comme rapport entre les solistes et un orchestre, entre un groupe de solistes et un orchestre, entre eux, etc. Aussi dans la manière de composer. Donc oui, il a apporté quelque chose d'extraordinaire, comme d'habitude, en s'inspirant beaucoup de ce qui se faisait en son temps. C'est quelqu'un qui était ouvert, hein, pas du tout dogmatique, voilà,
très curieux.
Absolument. Et donc on va le voir, il part dans toutes les directions et il fait une sorte de synthèse de ce qu'aurait pu être le concerto à l'époque baroque.
Et ça donne du Bach.
Et ça donne du Bach, absolument.
Pour illustrer cette présentation de la forme concerto, vous avez choisi de nous faire écouter le concerto en La mineur BWV 1041 pour violon et orchestre de Jean-Sébastien Bach, bien sûr. Voici un extrait du troisième mouvement Allegro assez. Thank you. Extrait du troisième mouvement Allegro assez du concerto en la mineur BWV 1041 pour violon et orchestre de Jean-Sébastien Bach, interprété par Julia Fischer, accompagné par le Baltic Yaossi Orchestra dirigé par Christian Jarvi. Pourquoi vous avez choisi précisément ce passage de cette œuvre pour illustrer votre présentation de la forme concerto, Michel ?
Eh bien, pour parler d'une chose dont j'avais pas encore parlé, dont on n'avait pas encore parlé pour l'instant dans le concerto, donc là on reconnaît beaucoup de choses qu'on a dites, hein, bien sûr, c'est-à-dire ce dialogue entre un instrument soliste, là cette fois-ci il est seul, et un orchestre, mais dans le concerto il y a une chose qui est importante relativement dès son début, mais qui va se développer au fil du temps, qui est la mise en valeur d'un instrumentiste d'élite, voilà. Et là, dans ce passage-là, on l'entend tout particulièrement. Évidemment, on a là une instrumentiste hors pair, absolument exceptionnelle, mais dans l'écriture de Bach, c'est déjà tout à fait incroyable. Là, il s'est vraiment inspiré de l'écriture italienne, de ce que les Italiens aimaient beaucoup, et particulièrement au violon, la virtuosité. Et donc, ce passage est extrêmement virtuose. Et puis, j'ai choisi aussi de le faire écouter parce qu'il reprend une des composantes que Bach va utiliser en même temps que donc, cette virtuosité, qui est la danse. Donc, on a une forme, une espèce de petite gigue avec ce rythme ternaire, tan-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ou de saltarelle ou de tarentelle. Enfin voilà, une danse très rebondissante, mais avec cette virtuosité tout à fait italienne. Et alors, le choix de l'interprète, là, pour moi, est très important parce que tu l'as remarqué, Eric, et les auditeurs certainement aussi. Moi, je suis un fervent partisan, pourquoi ne le cacher davantage, des instruments anciens. Et là, Julia Fischer et l'orchestre jouent sur des instruments modernes, mais avec tellement de musicalité, tellement d'intelligence. Et en ayant aussi, peut-être, à leur corps défendant, été influencé par tout le travail qu'ont fait les baroqueux dans les années précédentes. Ils jouent ça avec tellement de vie, de légèreté, de rebond, que, au fond, je dis, j'aime beaucoup les interprétations sur instruments anciens, mais j'aime surtout beaucoup les très bons musiciens.
Et cette Julia Fischer, donc violoniste allemande contemporaine magnifique, qu'on a eu l'occasion d'entendre à Toulouse.
Absolument.
Et je conseille d'aller l'écouter lorsqu'elle reviendra à la Lograin. Elle vient en général dans la saison des grands interprètes, donc ne la ratez pas si elle repasse par Toulouse. Alors, vous venez de le rappeler, nous l'avons rappelé même au début de l'émission, l'Italie est le berceau du concerto et les compositeurs baroques italiens se sont beaucoup penchés sur ce berceau. Alors, pour vous donner un exemple d'un concerto italien de cette époque, composé par un des maîtres du genre, voici un extrait du Concerto pour la nuit de Noël d'Arcangelo Corelli. Voilà, on entend dans cette œuvre des échos d'une œuvre qui lui succédera bien plus tard d'un certain Boccherini. C'était le concerto pour la nuit de Noël d'Arcangelo Corelli, un extrait interprété par l'ensemble Europa Galante qui accompagnait le violoniste Fabio Biondi. Alors, ce passage magnifique est typique de la forme du concerto italien de cette époque, Michel ?
Oui, tout à fait. Alors, le concerto a évolué. En réalité, lorsqu'il est arrivé, donc un peu plus tardivement, puisque Corelli, c'est avant Jean-Sébastien Bach, hein, on peut considérer donc, que Corelli sont presque homonymes. Torelli, donc l'un avec un C, l'autre avec un T en début de nom, et puis peut-être également Vivaldi un petit peu plus tard, sont donc les grands compositeurs qui ont lancé le genre concerto, mais il y a déjà une évolution entre Corelli et Vivaldi. En réalité, à l'époque, la forme la plus courante, c'est ce qu'on appelle le concerto grosso, c'est-à-dire un petit ensemble de solistes, là en l'occurrence il y en a trois, il y a deux violons et un violoncelle soliste, et ils dialoguent, eux, avec ce qu'on appelle donc, c'est le concertino, eux, et ils dialoguent avec ce qu'on appelle le ripiano. Et donc, dans les concertos concertos de l'époque, ceux de Corelli par exemple, la forme n'est pas encore tout à fait définie, c'est-à-dire que c'est surtout un enchaînement, comme on l'a vu d'ailleurs, de plein de mouvements très courts qui changent constamment de tempo. Et puis avec Vivaldi, et ensuite avec Bach, la forme va s'installer en trois mouvements. On commence par un mouvement rapide, on a au milieu un mouvement lent et très mélodique, et enfin, on termine par un mouvement rapide, parfois ressemblant à une danse comme chez Bach tout à l'heure. Voilà. Mais la forme est un peu différente, mais déjà on a ce dialogue entre quelques solistes et l'orchestre.
Voilà donc pour la forme du concerto italien à ses débuts. Nous revenons à l'ami Jean-Sébastien Bach et à son propos, Michel Brun. Il me semble que lorsqu'on prononce le mot concerto, on a tout de suite envie d'y accoler l'adjectif brandebourgeois. Est-ce que ce sont vraiment ses compositions les plus célèbres dans ce genre? Et pourquoi a-t-on donné à ces 6 pièces, il y en a 6, le nom de concerto brandebourgeois? Parce qu'il ne s'agit pas du tout de leur titre original, ce n'est pas Bach qui les appelait comme ça.
Ah non, pas du tout. Et vous savez, c'est souvent le cas des sous-titres qu'on donne aux œuvres. Par exemple, Schubert n'a jamais appelé sa symphonie inachevé, et Beethoven n'a jamais appelé sa sonate Waldstein ou Clair de Lune. Je crois même que Clair de Lune, ça n'est pas de lui. Donc voilà, ça c'est des musicologues ou des historiens.
Souvent bien longtemps après.
Alors, c'est un musicologue qui a appelé ses concertos les concertos brandebourgeois, en réalité parce qu'ils ont été dédiés donc au margrave de Brandebourg. Donc qu'est-ce que c'est qu'un margrave? Ben, c'est une sorte de marquis, hein, c'est un dignitaire, disons militaire de l'Allemagne de l'époque. Et Brandebourg, donc ben, tout le monde connaît Brandebourg à
Berlin,
la porte de Brandebourg,
voilà,
du côté de Berlin. Et donc, les pièces en question ont été dédiées au margrave de Brandebourg, et donc un certain monsieur Spitta, musicologue,
Spitta, voilà, en 1873.
Tout à fait, voilà. Donc bien après la mort de Bach, les a qualifiés de brandebourgeois. Alors, c'est intéressant à plus d'un titre, effectivement, concerto pour Bach, on pense brandebourgeois. Pourquoi? C'est un ensemble de 6 concertos, on a l'impression qu'il a, comment dirais-je, dit tout ce qu'on pouvait dire dans ce genre-là, avec ses œuvres. On va le voir hein, au fil de cette émission. Il y a, bien sûr, ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce dialogue soliste orchestre, mais il y a aussi la virtuosité, parfois absolument ébouriffante, on va l'entendre. Il a demandé des véritables performances à ses interprètes. D'ailleurs, le pauvre monsieur Brandebourg a probablement été dépassé par les œuvres qui lui ont été remises, parce qu'on a retrouvé la copie en question et elle n'avait visiblement jamais servi. Donc, probablement, il était dans l'incapacité, son orchestre était dans l'incapacité de jouer ses concertos, voilà, qui étaient beaucoup trop difficiles. Et surtout, pour des formations, et c'est le dernier point, des formations incroyablement diverses. C'est-à-dire que là, ben, voilà, on
entend. Ce sont 6 concertos, mais très différents les uns des autres, même s'ils sont regroupés sous le même nom.
Absolument. C'est incroyable. Alors, des idées de regroupement inouïes. Par exemple, il y en a un pour flûte à bec, trompette, hautbois et violon. Mais comment peut-on avoir l'idée de faire sonner un instrument comme la flûte à bec, qui est un instrument plutôt confidentiel, disons, avec une trompette qui est un instrument bah, plutôt trompettant, on va dire, c'est-à-dire éclatant, quoi, voilà. Et il y en a un autre donc, dont on va entendre un extrait tout à l'heure, pour 2 cordes, 2 hautbois et 1 violon solo, qui dialogue avec un ensemble de cordes. Il y en a d'autres uniquement pour des cordes. Il y en a avec flûte traversière, violon et clavecin, etc. Il y a dans ces 6 concertos, 6 formations différentes. C'est comme si un peintre qui aurait voulu montrer toute une palette de couleurs en disant voilà, ça c'est toutes les couleurs que je peux donner. Et donc, c'est ce qu'a voulu faire Bach, et effectivement, on comprend pourquoi ses œuvres sont si célèbres.
Voilà. Il délivre là, en fait, la quintessence de son art de concerto, de ce que doit être l'art du concerto pour lui.
Voilà, absolument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme il les a dédiés à ce monsieur de Brandebourg, probablement avec une petite idée derrière la tête, hein, Bach a passé sa vie à, comment dirais-je, quêter des postes plus intéressants et plus prestigieux, pas pour le prestige, mais disons pour les facilités du travail dont il avait besoin pour donner sa pleine mesure. On pense maintenant que c'était loin d'être un cadeau, mais que c'était une manière de montrer son talent à ce monsieur de Brandebourg pour éventuellement obtenir un poste à Berlin.
Il l'a trop montré.
Il l'a peut-être trop montré, ce monsieur. Peut-être que ce monsieur a été effrayé par cette espèce de délire, quoi, de folie. Et voilà. Mais c'est intéressant de lire une partie de la dédicace. Pas question de la lire en entier, tellement c'est long, verbeux, et on pourrait qualifier ça vraiment, enfin, à la limite de la flagornerie, quoi, voilà, hein, comme dans le style de l'époque. Et donc, Bach a écrit cette préface en français.
Et oui, en français.
Voilà.
Puisque c'était la langue qui était en vigueur à l'époque à la cour de Berlin, mais aussi qui était parlée dans toute l'Europe.
Absolument.
Dans toutes les aristocraties européennes.
Mais comme disait Frédéric II, d'ailleurs, qui était le roi de Prusse, l'allemand est une langue tout juste bonne pour les palefreniers. C'est incroyable, parce que c'était lui un allemand, et donc il cultivait à sa cour, effectivement, lui aussi, le français. Alors je vous en lis un petit passage. Comme j'eus, il y a une couple d'années, le bonheur de me faire entendre à votre Altesse royale, en vertu de ses ordres, et que je remarquais alors qu'elle prenois quelque plaisir au petit talent que le ciel m'a donné pour la musique et qu'en prenant congé de votre Altesse royale, elle voulut bien me faire l'honneur de commander de lui envoyer quelques pièces de ma composition. J'ai donc, selon ses très gracieux, etc., etc., il y en a des paquets et des paquets, ça n'a servi à rien.
Oui, parce qu'en fait, il était venu en 1719, je crois, rencontrer le margrave de Brandebourg. Il avait joué devant lui, il avait improvisé.
Tout à fait. Donc,
c'est là qu'il avait tellement impressionné le margrave qu'il lui avait commandé des œuvres. Mais il ne s'attendait pas.
Il s'attendait
deux ans
pas
plus
ça.
Tard, il reçoit.
Voilà. Et puis je pense que Bach, il avait des illusions sur l'engouement des politiques.
Pour sa musique.
Pour sa musique, oui. Puis à un moment donné, voilà, on entend Bach improviser. Alors il fait forte impression, on le félicite. Et lui espérait que ça déboucherait sur quelque chose. 10 minutes après, le margrave avait dû l'oublier, pris peut-être par des problèmes plus importants, militaires ou politiques, ou les deux. Et voilà.
Quand Bach, il a reçu les partitions 2 ans plus tard, qui c'est ce type déjà? Ah,
voilà.
Bach. Hein.
Voilà, c'est ça. Et probablement. Hein, et voilà.
Alors, 6 concertos brandebourgeois qui porte les numéros allant de BWV 1046 à BWV 1051 au catalogue. Nous allons écouter un premier extrait d'un des concertos brandebourgeois et pour faire les choses dans l'ordre, ça va être un extrait du premier mouvement du premier concerto brandebourgeois, celui qui porte donc le numéro BWV 1046. Il s'agit d'une version du Freiburger Baroque Orchester. Extrait du premier mouvement du concerto brandebourgeois numéro 1 BWV 1046 dans une version du Freiburger Baroque Orchester. Dans cet extrait du premier des 6 concertos brandebourgeois de Bach, est-ce qu'on a déjà les bases des 5 qui suivront, Michel? Ou alors, ça va partir dans toute autre direction?
Ah, ça va partir dans de toute autre direction. C'est pour ça que j'ai essayé de choisir, disons, dans les exemples musicaux que nous allons entendre, des exemples très différents. Parce que, vraiment...
On a l'impression que ça n'appartient pas au même corpus, en fait,
voilà,
quand on les écoute
fait.
Les 6.
Absolument, absolument. On va entendre en particulier l'exemple suivant qui va partir dans une direction très différente. Mais en tout cas, là, on a bien entendu donc, ce concertino, c'est-à-dire ce petit groupe de solistes composé de 2 hautbois, 2 cors et 1 violon. Pourquoi pas 2 violons, je ne sais pas, enfin, c'est très étrange, qui dialogue donc avec l'orchestre. Et on entend tout de suite aussi l'énorme exigence de Jean-Sébastien Bach, en particulier avec ses cornistes. Hein. On entend tout de suite, même si on n'est pas corniste, le corps entre nous, les musiciens, on appelle ça la boîte à pain ou à canard,
oui,
ça en dit long.
C'est très difficile.
Voilà. C'est donc surtout l'instrument baroque qui est un instrument naturel, c'est-à-dire sans piston, pour aider à l'émission des différentes notes et qui se fait donc essentiellement, on va dire, à la pression des lèvres et du souffle sur l'embouchure de l'instrument. Et c'est un instrument extrêmement fragile qui peut être très traître. Et là, remarquable. Et en plus, il faut savoir que cet enregistrement est effectué en concert et donc d'autant plus de mérite pour ce remarquable ensemble de Freiburg.
Freiburger Baroque Orchester. Nous poursuivons maintenant notre exploration des concertos brandebourgeois avec un extrait du 4e d'entre eux, le final. Donc c'est le final du 3e mouvement Presto, interprété par la Netherlands Bach Society.
Thank you.
le final du troisième mouvement presto du quatrième concerto brandebourgeois joué par l'ensemble de la Netherlands Bach Society, une formation dont vous semblez beaucoup apprécier les interprétations.
Oui, j'aime beaucoup. Alors là aussi en concert, hein, donc chapeau, parce qu'on sait que les versions concert, des imprécisions, des petites erreurs, des petits décalages, des petits problèmes de justesse passent au moment du concert. Mais quand on le réécoute à froid, comme on le fait là, c'est-à-dire sans l'image, sans le moment magique du concert qui permet de surmonter, on va dire, tous ces petits inconvénients, voilà, ces petits défauts de rien du tout, que ça reste aussi précis, joli, phrasé, vivant. Et donc, moi, je trouve ça remarquable. Et bon, il faut dire que la Hollande est un des berceaux de la redécouverte des instruments anciens,
oui,
grâce à Leonhardt, grâce à Bruggen. Donc, il y a énormément de très bons musiciens, mais il n'empêche qu'avec ces personnes qui ne sont pas des stars, ils arrivent à faire quelque chose de magnifique sur le plan musical. Et alors là, on a donc quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire sous cet aspect de presto un peu léger, un peu dansant, disons, une construction extrêmement rigoureuse avec ce motif pam pin tadadin tadadan tan 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 qui est utilisé par Bach sous forme de fugue, c'est-à-dire on entend les différentes voix qui rentrent les unes après les autres
ouais.
Sur ce motif-là, et chacune d'entre elles qui continue à tricoter son petit chemin pendant que l'autre va à nouveau rentrer. Donc là, on a une écriture très 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 éloignée de la musique italienne dont on a pu parler tout à l'heure, parce que cet art du contrepoint, évidemment, un art éminemment allemand, c'est l'art dans lequel Jean-Sébastien Bach a été probablement le plus grand compositeur de tous les temps.
Et maintenant, une troisième et dernière illustration d'un des six concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, en l'occurrence le cinquième, dont voici un extrait du premier mouvement. C'était un extrait du premier mouvement Allegro du concerto brandebourgeois numéro 5 BWV 1050, interprété ici par The European Brandenburg Ensemble. Et vous vouliez finir cette partie consacrée au concerto brandebourgeois avec le cinquième des six et avec cet extrait précis.
Voilà, alors là je pense que quand cet extrait a commencé, certains auditeurs ont pu se dire, là il a dû y avoir une erreur dans le montage de la partie musicale des exemples musicaux, parce que c'est pas un concerto. On entend un clavecin tout seul, et puis, et si, c'en est bien un, puisque rentre l'orchestre au bout de quelques instants. Voilà. Alors, c'est un concerto, le cinquième brandebourgeois est un des chefs-d'œuvre absolus de toute la musique, de Bach, mais pas seulement. Et il y a, on va dire aux deux tiers du premier mouvement, une vaste cadence pour clavecin seul, qui est un morceau complètement inouï. Hein, je pense que là, on l'a entendu. On a par moments l'impression que c'est de la musique contemporaine, tellement c'est audacieux de la part de Bach sur un plan harmonique, on ne sait plus dans quel ton on est. On a cette espèce de descente là, chromatique vers le grave, et puis ensuite cette espèce de ponctuation, pom, 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 à la basse. C'est complètement inouï ce qu'il fait. C'est d'une créativité sans limite, une imagination...
Et d'une liberté aussi.
D'une liberté, c'est le mot, absolument, c'est le mot. D'une liberté incroyable, et ça nous donne une idée, parce qu'il est très probable que quand il l'a imaginé, il s'est vu lui-même au clavecin.
C'est ce que je pensais.
Voilà, c'est un immense virtuose.
C'est un très grand claveciniste.
C'est un très grand claveciniste. Il faut reconnaître que c'est une des pièces les plus difficiles de tout le répertoire, pour clavier, pour clavecin, mais pas seulement, pour piano également. C'est une pièce d'une difficulté technique absolument inouïe, et là aussi encore un univers dans lequel Bach a creusé, a abouti quelque chose à un point inimaginable.
Voilà donc pour les concertos brandebourgeois, nous enchaînons avec les concertos pour violon. Bach, qui était aussi violoniste, en a composé trois. 2 pour un violon, le BWV 1041 que l'on a écouté en début d'émission, le BWV 1042 et le BWV 1043, ce dernier étant écrit pour 2 violons. Est-ce que ces 3 concertos sont des pièces importantes dans l'œuvre de Bach, des pièces que tout grand violoniste doit mettre à son répertoire ?
Eh bien, curieusement, ça n'est pas le cas. Si dans le répertoire des violonistes, on entend alors assez fréquemment le premier d'entre eux, le La mineur, dont on a entendu un extrait du final tout à l'heure, faut bien reconnaître que les autres concertos pour violon, eux, sont beaucoup moins fréquentés par les violonistes. Il est possible que ce soit parce que on ne sait pas très bien quelle est leur genèse. Est-ce qu'ils viennent d'autres pièces déjà écrites auparavant, de concertos pour clavecin que Bach aurait transcrit au violon, ou il y a certaines hypothèses de concertos pour hautbois aussi, qu'il aurait transcrit au violon, mais peut-être ne sont-ils pas idiomatique du violon. Voilà. Et donc, les violonistes se dirigent moins vers les autres que vers le La mineur et que vers ceux peut-être qu'on va entendre qui ont une particularité.
Alors, vous avez souhaité que nous écoutions d'abord non pas des concertos pour violon, mais un extrait du concerto pour violon et hautbois BWV 1060. Voici le troisième mouvement.
Qu'est-ce que c'est beau, il faut l'interrompre, c'est terrible, on en parlait off, mais comment ça a pu sortir d'une tête humaine une musique pareille ?
Oui, et puis autant de musique aussi géniale. Voilà, je pense que n'importe quel compositeur ayant composé une pièce comme celle-là se dit...
Ça ira.
Ça ira, voilà. Et lui, non, c'était constamment comme ça, voilà, absolument.
Alors là, c'était donc un extrait du troisième mouvement du concerto pour violon et hautbois BWV 1060, interprété ici par le grand oboïste belge baroque Marcel Poncel, accompagné par Il Gardellino, un ensemble qu'il a cofondé. D'ailleurs. Pourquoi ce choix, Michel ? Parce que c'est une œuvre de Bach qu'on entend rarement en concert ?
Oui, c'est une œuvre qui est très peu jouée. C'est très difficile de réunir un violoniste soliste et un hautboïste soliste de ce niveau, du niveau de jouer cette œuvre-là. Pour le violon, je ne pense pas que ce soit une œuvre exceptionnellement difficile, elle est probablement moins difficile que le concerto en la mineur, par exemple ce final ébouriffant qu'on a entendu pour commencer l'émission. Mais par contre, pour le hautbois, c'est absolument redoutable. Il traite le hautbois au fond comme un violon. Or, en réalité, le hautbois est un instrument qui est quand même beaucoup plus périlleux sur un plan technique. Et donc, voilà. Et j'ai choisi cette version parce que Marcel Poncel est un des plus grands hautboïstes actuels, baroque. Le hautbois baroque, lorsqu'il a été redécouvert au moment de la redécouverte des instruments anciens, on va dire que c'est peut-être l'instrument avec les trompettes et les cors, c'est les instruments qui ont posé le plus de problèmes.
Voilà. Ah oui,
parce que c'est un instrument redoutablement difficile, vraiment, et ça fait des canards vraiment un peu quand ça veut, quoi, hein, c'est un peu imprévisible. Et là, il y a une telle maîtrise du souffle, une telle maîtrise du phrasé, voilà, on a l'impression que c'est un instrument facile. Alors par contre, j'ai un petit regret sur cet enregistrement, je tenais à le passer quand même, parce que c'est tellement miraculeux, mais est-ce que c'est lui qui a dirigé le montage du disque, ou plutôt ce qu'on appelle le mixage du disque, mais je trouve qu'il s'est mis un tout petit peu en avant,
si
c'est
lui, avant.
Voilà,
ah, bah,
par rapport au violon. Normalement, c'est un dialogue qui s'établit exactement à égalité, et là on entend un petit peu plus le hautbois que le violon.
Alors, on va préciser aussi que ce concerto BWV 1060 a été transposé par Bach
pour trois claviers et qu'on l'a entendu il y a 2 ans maintenant à la Lohengrin jouée par David Frey avec ses amis et l'orchestre du Capitole. On va maintenant vous faire entendre le concerto pour deux violons BWV 1043. J'en ai parlé il y a quelques instants. Il s'agit d'une version dirigée cette fois-ci par Jordi Savall. Le concerto pour deux violons BWV 1043, une version dirigée par Jordi Savall, que vous avez souhaité proposer à nos auditeurs, Michel, et tout particulièrement ce passage précis. Quelque chose me dit d'ailleurs une raison.
Oui, ben c'était pour illustrer un autre aspect, évidemment. J'ai choisi des passages qui me plaisent, mais il y a aussi, bien sûr, dans le cadre d'une émission comme celle-là, la volonté donc, de balayer un petit peu toute cette palette dont je parlais tout à l'heure. Et là, donc, un mouvement lent, et Bach est, comment dirais-je, capable de nous plonger dans cette espèce d'état d'apesanteur, voilà, dans ces mouvements lents de concerto. On a l'impression d'une méditation et d'un dialogue entre ces deux instruments. L'orchestre, là, est très discret, hein, il se contente de toutes petites ponctuations, et c'est une sorte de dialogue comme deux âmes qui se rencontrent et qui échangent des choses extrêmement profondes, mais très douces en même temps. Voilà. Moi, je trouve ça absolument magnifique, et j'ai choisi cette version parce que je trouve les deux violonistes, c'est pareil, ça n'est pas des stars. Donc, Manfredo Kremer, qui joue le premier violon, et le premier violon de l'ensemble de Jordi Savall, c'est-à-dire c'est d'abord et avant tout un instrumentiste d'orchestre, qui fait une carrière de soliste, mais qui n'a pas, voilà, une réputation d'un immense concertiste. Mais alors, quelle musicalité, quelle modestie dans la manière de jouer, je trouve ça remarquable. Il crée ce sentiment d'une sorte de berceuse, mais profonde. Voilà.
Voilà donc pour les concertos pour violon. On en arrive à la dernière partie de cette émission qui va être dédiée aux concertos pour clavier, composés pour le clavecin à l'origine et qu'on entend le plus souvent en version piano de nos jours. Alors là, Bach a pas mal varié les plaisirs dans ce domaine puisqu'on trouve au répertoire 7 concertos pour un clavier, 3 concertos pour 2 claviers, 2 concertos pour 3 claviers et enfin un concerto pour 4 claviers. On va en parler un peu plus tard. Le clavecin et l'orgue, c'était vraiment l'instrument de prédilection de Bach et on peut comprendre qu'il ait beaucoup composé pour lui, évidemment.
Mais oui, bien sûr. Il y a 2 raisons. Il y a certainement le fait que c'est l'instrument qu'il connaissait le mieux. On a le sentiment qu'il a quand même une incroyable connaissance de tous les instruments parce qu'il les malmène d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il les utilise merveilleusement bien, mais il les pousse dans leur dernier retranchement. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec les cors, par exemple, dans le premier concerto brandebourgeois. Mais jamais, en tout cas, des choses absolument impossibles. Il y a un concerto beaucoup plus tardif, concerto de Brahms, dont on a pu dire que c'était pas un concerto pour violon, mais un concerto contre le violon. Et on peut jamais dire ça de Bach. Mais, en même temps, effectivement, il pousse les instrumentistes et les instruments à leur maximum de virtuosité, d'expression, de... voilà. Mais le concerto pour clavecin lui permettait aussi probablement d'animer des moments musicaux en famille. C'était très facile, parce que comme le clavecin est un instrument très peu puissant, pour réunir un orchestre, il suffit d'un instrumentiste par partie, donc un premier violon, un second violon, un alto, un violoncelle, peut-être une contrebasse, et on a un orchestre pour
accompagner un clavecin. Et on arrive à l'équilibre.
Il est hors de question, enfin il est très difficile de jouer ces concertos pour clavecin avec un grand orchestre, parce que très rapidement le claveciniste sera couvert si les instrumentistes ne jouent pas du bout de l'archet, ce qui est très déplaisant pour eux, bien sûr. Et donc on imagine que d'animer ses séances au café Zimmermann en son temps, de descendre son clavecin de son logis de l'école Saint-Thomas, où il avait un logement de fonction, on pourrait dire, pour l'amener au café Zimmermann, et avec ses enfants autour de lui, ses amis de passage, il pouvait jouer ses concertos pour clavecin lui-même au clavier, en famille.
Et on imagine les gens qui avaient la chance à cette époque d'avoir Bach et ses fils, Carl-Philippe Emmanuel, Wilhelm Friedman, jouer devant eux.
Absolument, c'est inouï, c'est juste incroyable.
Et gratuitement.
Et gratuitement, au café.
On imagine ce que ça coûtera aujourd'hui.
Voilà, en terrasse en été, en particulier, sur le magnifique jardin qui existait à l'époque, attenant à ce café de Zimmermann.
Voici un extrait du premier des 7 concertos pour un clavier de Bach, celui qui porte le numéro BWV 1052. C'est une version jouée sur clavecin, l'instrument pour lequel ces concertos ont été composés à la base, et c'est Gustav Leonhardt qui l'interprète. Le premier mouvement allegro du concerto pour clavecin numéro 1 en ré mineur, BWV 1052, interprété par Gustav Leonhardt. Bon, extrait célèbre, joué par un claveciniste tout aussi célèbre, que vous aimez beaucoup et auquel tous les musiciens baroques sont reconnaissants.
Absolument. On va dire qu'il fait partie de ce trio de musiciens exceptionnels qui ont donc eu l'audace de relancer la pratique des instruments anciens. Il faut savoir que le clavecin n'est pas un instrument qui avait totalement disparu de la pratique. Il y a une grande claveciniste qui est célèbre du début du XXe siècle, alors que là, on est plutôt dans la deuxième partie, bien sûr, du XXe siècle. Leonhardt a commencé, on va dire, à exercer sur un plan professionnel dans les années 50-60, par là. Mais cette claveciniste, c'est Wanda Landowska. Mais elle jouait d'un instrument qui n'était pas du tout un clavecin d'époque, parce que justement, le reste des instruments avec lesquels elle jouait quand elle jouait un concerto étaient des instruments modernes beaucoup plus puissants, puis on avait l'habitude de jouer avec des orchestres, des formations importantes de musiciens, et donc la maison Pleyel par exemple en particulier avait créé un clavecin, on pourrait dire moderne à l'époque des Steinway, des pianos Steinway. Ils avaient créé un clavecin pour jouer dans ces conditions-là, alors que Leonhardt il a fait ce qu'ont fait les musiciens qui ont redécouvert ces instruments à l'époque. Il est allé dans les musées, il a ressorti ces instruments poussiéreux, il les a remis en état et il s'est remis à en jouer avec la vraie sonorité de l'époque. Le clavecin sur lequel il joue aurait très bien pu appartenir à Bach.
Alors, un mot peut-être sur l'œuvre en question, là, ce premier des concertos pour clavier, pour clavecin en l'occurrence.
Voilà, là aussi, une particularité nouvelle. Dans le dernier Brandebourgeois, si vous vous souvenez c'était le deuxième Brandebourgeois, donc ce contrepoint très chargé, avec toutes ces entrées de fugue sur le même motif. Et là, l'orchestre qui commence à l'unisson avec le clavecin, tous les instruments jouent la même mélodie. Donc encore une fois, une nouvelle palette que nous montre Jean-Sébastien Bach. Jouer un unisson quand on est tout seul, c'est logique.
Un contre-pied.
Voilà, exactement, un contre-pied, absolument, tout à fait. Un petit mot, Bach n'a cessé d'utiliser son matériau musical d'une œuvre à l'autre. On l'a pas dit tout à l'heure, mais dans les Brandebourgeois, il y a des extraits de cantates. Donc il y a des morceaux qu'il a repris dans des cantates, des symphonias introductives par exemple, de cantates. Donc il n'avait pas du tout ce côté rigide, on pourrait dire j'ai écrit une œuvre, j'y touche plus. Non, je réutilise mon matériau musical.
Il recyclait.
Il recyclait, voilà.
Je ne sais pas si on utilisait le mot.
Absolument.
Alors, il y a aussi une curiosité parmi les concertos de Bach. Il a composé un triple concerto, le BWV 1044, pour flûte, violon et piano. Nous allons tout de suite l'écouter, ce triple concerto. Voici le premier mouvement Allegro, interprété par l'Académie für Alte Musik de Berlin. C'était le premier mouvement Allegro du triple concerto BWV 1044 pour flûte, violon et piano, interprété par l'Académie für Alte Musik de Berlin. Magnifique œuvre, Michel. Dommage qu'on ne l'entende pas plus souvent en concert.
Voilà, c'est une œuvre qui, on peut le dire, est très rarement, voire jamais jouée en concert. Nous-mêmes qui avons balayé, grâce à Passe ton Bach d'abord, une grande partie de la musique instrumentale de Bach, nous n'avons jamais joué cette œuvre, j'en rêve. En plus, il y a une flûte dedans, donc moi, je serais parfaitement heureux de jouer ça. Il faut juste de trouver le claveciniste ou en l'occurrence ici le pianofortiste, puisqu'on a entendu cette œuvre jouée sur un pianoforte, peut-être on y reviendra dans un moment, mais l'instrumentiste capable de jouer cette musique, vous avez entendu, là à nouveau une virtuosité absolument incroyable. Et puis alors, quelle énergie vitale, quelle énergie rythmique, hein, dans ces relances constantes comme ça, on a l'impression que c'est une musique d'une vitalité, de quelqu'un qui a une force de vie absolument incroyable. Et donc ce pianoforte, alors j'ai choisi cette version parce que les rares fois où on l'entend plus souvent au clavecin, mais il faut savoir que donc le clavecin à l'époque de Bach était en train de terminer sa très longue et brillante carrière. Simplement, il prenait son indépendance par rapport aux autres instruments et donc du coup il lui manquait une ou deux caractéristiques qui auraient permis de le faire évoluer avec l'évolution de la musique vers la musique classique et vers la musique romantique. C'est essentiellement le fait que on ne peut pas faire de nuances sur un clavecin, c'est-à-dire que si vous donnez un énorme coup de poing,
ça changera rien à la puissance du son émis.
Touchiez avec votre petit doigt, ça ne changera rien à la puissance. Voilà, c'est dû au mécanisme, hein, on n'avait pas inventé un mécanisme qui permettait ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas non plus modifier la couleur à moins de changer de registration, comme sur un orgue. Et donc, on cherchait un instrument qui permette de faire tout ça. Et entre le clavecin et le piano moderne qu'on connaît de nos jours, les grands pianos de concert qu'on voit au moment des récitals de piano, eh bien, il y a eu plusieurs étapes, dont celle du piano forte qu'on vient d'entendre à l'instant. Il faut reconnaître que c'est un instrument très difficile à bien régler. Mais par contre, quand il est bien réglé et bien joué comme là, c'est un instrument merveilleux.
Alors, ensuite, vous avez choisi de nous faire écouter le concerto BWV 971, appelé aussi le concerto italien, et que Bach avait même appelé concerto dans le goût italien. Alors là, il s'était confronté à ce qu'on pourrait appeler le modèle dominant dans l'Europe musicale de son époque.
Absolument, et on va l'entendre. Alors, simplement, c'est un concerto très surprenant par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Le dialogue va s'établir entre, puisqu'il va y avoir dialogue, puisqu'il y a concerto, va pas s'établir entre un soliste et un orchestre, mais entre la main gauche et la main droite d'un seul et unique instrumentiste. C'est donc un concerto pour clavier seul. Alors, on pourrait dire, ben non, c'est pas un concerto. Si, vous allez l'entendre. Le passage que j'ai choisi, donc, commence par la naissance d'un accompagnement. On attend, il y a cet accompagnement, et puis rentre cette sublime mélodie à la main droite, donc voilà. Et c'est en ce sens-là que c'est un concerto, on a vraiment deux parties qui sont bien déterminées, l'accompagnement d'un côté et la mélodie, on a l'impression d'un dialogue entre un violon par exemple, qui jouerait la mélodie, et un orchestre qui jouerait l'accompagnement. Et dans le goût italien, ben voilà, parce que c'est une sublime mélodie, on pourrait être à l'opéra dans cette mélodie, dans un opéra italien de l'époque, voilà, ce goût du chant et de la mélodie qui est propre à la musique italienne.
On va voir tout de suite ce que ça donne. Voici un extrait du concerto italien BWV 971 de Jean-Sébastien Bach. Et il est joué par un des plus grands pianistes vivants, l'américain Murray Peraya. le concerto italien BWV 971 de Jean-Sébastien Bach, joué par Murray Peraya, un des grands interprètes de l'œuvre pour piano de Bach de ces 50 dernières années. C'était un extrait bien particulier de ce concerto italien. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer en choisissant ?
Alors, deux choses. Donc, cet art du chant propre à la musique italienne, donc je l'ai dit tout à l'heure, et puis cet art de l'ornementation. Il faut savoir que la musique mélodique italienne reposait sur des intervalles mélodiques extrêmement simples. Et à charge à l'interprète d'ornementer, on dit aussi de faire des diminutions, cette musique pour, comment dirais-je, lui donner davantage de souplesse et de fluidité. Voilà. Alors là, Bach ne laisse pas le choix à son interprète, il a écrit lui-même l'ornementation, mais par contre, on sent bien dans les notes rapides qu'on aurait pu faire tan, tim, et que ces petites notes qui réunissent les deux notes, la note grave et la note aiguë, sont une ornementation qui rend la musique plus fluide. Et donc ça, c'est vraiment dans le goût italien. Et puis j'ai choisi cette version parce que j'adore absolument Murray Peraya.
Et qui ne l'adore pas ? Voilà, quand on aime le piano, on aime Peraya.
Voilà. Et je trouve son histoire avec Bach absolument extraordinaire, parce que Murray Peraya était, lorsqu'il a commencé à découvrir cette musique, un des plus grands interprètes de la musique romantique pour piano, hein, Schubert, Schumann, Beethoven, etc. Mozart, il a enregistré magnifiquement les concertos de Mozart, et il se trouve qu'il s'est coupé à la main, je crois que c'est en cuisinant. Et il s'est vraiment profondément entaillé un tendon, et donc il n'a plus pu jouer pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Et à ce moment-là, il était évidemment dans une très grande détresse, on va dire, puisque c'était sa vie de jouer du piano, et il a étudié la musique de Bach à la table, ce qu'on appelle à la table, c'est-à-dire sans instrument. Il a étudié les partitions de Bach en les lisant. Et c'est cette découverte de Bach, bien sûr, il connaissait Bach auparavant, hein, il l'avait même probablement travaillé, mais cet approfondissement causé par un problème physique qui lui a ensuite donné envie d'enregistrer presque probablement une grande partie de l'intégrale de la musique pour clavier de Bach. Voilà, je trouve cette histoire très belle.
Magnifique, Murray Peraya. Pour terminer ce petit aperçu des concertos pour clavier de Bach, parce que là encore, nous sommes loin d'en avoir fait le tour, vous avez voulu qu'on entende le concerto pour 4 clavecins BWV 1065, pièce emblématique et célèbre dans la production pour clavier du grand compositeur allemand, mais qui est une transcription. C'est un arrangement du concerto pour 4 violons et violoncelle en si mineur d'un de ses contemporains, un certain Antonio Vivaldi.
Voilà, alors ça, je trouve ça magnifique parce que dans le cœur de beaucoup de mélomanes, en tout cas auprès des musicologues savants, les deux compositeurs qui étaient presque contemporains, Vivaldi est un tout petit peu avant Jean-Sébastien Bach, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire, entre les deux. Il y en a un, c'est de la musique noble, merveilleuse, rigoureuse, parfaite, absolue, Bach, et l'autre, c'est de la musique un peu facile, une virtuosité un peu facile, et puis une écriture un petit peu, là aussi un peu facile. Hein. Vivaldi se vantait d'écrire un concerto plus vite que le copiste ne le recopiait.
Il est vrai qu'il a été très très productif.
Voilà.
Et donc, il est vrai aussi qu'on reconnaît sa musique tout de suite.
Voilà, absolument. Tout d'ailleurs, c'est ce qu'on va entendre quand on va entendre ce concerto. Eh bien, ce mépris, Jean-Sébastien Bach ne l'avait absolument pas. Et ça, c'est une chose extraordinaire dans cet homme. C'est le plus grand compositeur de la période. On ne peut pas dire qu'il le savait, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ne le savait pas, parce qu'il connaissait sa valeur.
Il était conscient de sa valeur, oui.
Voilà. Mais en même temps, il n'avait aucun mépris pour d'autres grand créateur, même s'il créait dans des domaines complètement différents du sien. Et la musique de Vivaldi n'a rien à voir apparemment avec celle de Bach, mais lui, Bach, l'admirait pour ses qualités éminentes et n'avait absolument aucun scrupule à la reconnaître et à l'utiliser. Et puis un dernier mot, on a parlé tout à l'heure donc de Bach utilisant sa propre musique dans plusieurs cadres, mais voilà, là il prend la musique de Monsieur Vivaldi sans lui demander son avis, bien sûr. Hein, Vivaldi n'a jamais su qu'il y avait eu cette transcription, mais il n'y avait pas cette notion de propriété intellectuelle comme de nos jours.
Oui, bien entendu.
Voilà, la musique circulait, quand on l'appréciait, on pouvait la reprendre, l'arranger, la changer, la modifier et l'acclimater à sa sauce, pourvu que ce soit bien.
Voilà, donc c'est une pièce extraite, ce concerto pour 4 violons et violoncelles en si mineur, de la série qui s'appelle L'Estro Armonico, publié en 1711 par Vivaldi. Donc il l'adapte en 1735, Jean-Sébastien Bach. On écoute un extrait de ce fameux concerto pour 4 clavecins BWV 1065 et ça nous permet de retrouver la Netherlands Bach Society. deux concertos pour quatre clavecins BWV 1065 de Jean-Sébastien Bach, interprétés encore par les musiciens de la Netherlands Bach Society. Et vous n'avez pas souhaité qu'on diffuse le début de l'œuvre qui est très célèbre, mais plutôt le passage qu'on vient d'entendre. Pourquoi donc ?
Alors, j'ai souhaité cet enchaînement, en réalité, entre le mouvement central. Donc là, on est dans l'époque où la forme du concerto s'est bien installée. Donc, il y a eu un premier mouvement qui est un mouvement rapide. Nous avons ce mouvement lent très curieux avec cette espèce de tricotage des quatre clavecins en arpège qui crée une ambiance un peu inquiétante. On dirait presque un film fantastique. Hein.
Oui, on ne sait pas où on va, où il nous amène. Hein. Quel gredin quand même.
C'est ça.
Il nous met presque mal à l'aise.
Tout à fait, absolument. Il crée ce malaise parce qu'on n'a plus d'assises harmoniques. On n'a plus de repères, voilà, exactement. On avance comme ça, comme un petit peu au hasard, cet enchaînement d'accords. Cette fin très dramatique avec ces accords scandés. Ta-dam, ta-dam.
Et on se dit, voilà. Qu'est-ce qui nous attend derrière ?
Et puis derrière, c'est du Vivaldi. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Bach n'avait de mépris pour aucun grand créateur, même si son langage était très éloigné du sien, là, on est en plein chez Vivaldi. Pourtant, non, c'est du Bach. Et Bach adorait ça. Et ça, c'était un des grands mystères de cet homme qui avait ce goût pour toutes les musiques.
Voilà donc pour cette émission, la quatrième de la série que nous avions consacrée à Jean-Sébastien Bach avec Michel Brun, que je remercie une nouvelle fois très chaleureusement d'avoir partagé avec nous sa passion et toute sa connaissance de l'œuvre de son compositeur favori. Avant de conclure, je rappelle que dès ce 23 mai et jusqu'au 3 juin, sont programmées au Théâtre du Capitole 6 représentations en version concert de La Force du Destin, l'opéra de Giuseppe Verdi. Notez également qu'au même endroit, le 26 mai à 19h, la mezzo-soprano Véronique Jans, accompagnée par la pianiste Suzanne Manoff, va donner un récital de mélodies françaises. Pour ces deux événements, la jauge sera réduite et je vous invite à consulter le site web du Théâtre du Capitole pour vous renseigner et réserver vos places. www.theatreducapitole.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité, excellent week-end et très bonne semaine à tous.